mais j'ai accepté l'offre de l'université de présenter une communication à votre colloque et j'ai commencé à travailler sur un paper qui n'est pas terminé, mais que moi je trouve très intéressant et je voudrais vous en parler. C'est un examen des propositions de réforme du maintien de la paix. L'article cerne l'après-guerre froide et la difficulté évidente de l'ONU à répondre à la violence et au terrorisme de l'époque actuelle. Maintenant, avant qu'on commence, je voudrais parler brièvement des genres de missions de paix. Chacun a son propre idée et sa propre typologie, mais voilà, les préventions de conflits et médiations, ainsi que l'établissement de la paix ou du peacemaking, ce sont des activités plutôt diplomatiques. Ensuite, le maintien de paix, c'est l'affaire traditionnelle avec les bérets bleus, les Adidas et les battes de baseball. L'observation puis la surveillance des zones démilitarisées. Ensuite, il y a des opérations polyvalentes ou ce qu'on appelle complexe, qui est un mélange d'à peu près tout, avec des mandats, avec 80 tâches, et c'est la protection de la population, c'est le désarmement des milices, c'est consolidation de la paix ou du peace building en anglais. Alors c'est un mélange de tout et avec raison on les appelle des opérations complexes. Ensuite il y a l'imposition de la paix ou en anglais peace enforcement. Ça c'est les opérations chapitre 7, c'est le combat. Et finalement, la consolidation de la paix ou le peace building, qui est d'essayer de restructurer les tâches, c'est un exercice diplomatique ou travailleur social, c'est la police, les finances, les droits humains, tout ça. Cependant, Bruno a parlé du rapport HIPPO. Puis effectivement, dans le rapport HIPPO, on essaie de tout mettre ça dans le même pot, puis d'appeler ça des opérations de paix tout court, et d'essayer d'éviter cette distinction entre les différentes opérations, qui est un peu compliquée parce qu'il y a certains pays qui favorisent un certain genre d'opération, puis d'autres, par exemple, les opérations traditionnelles de peacekeeping. Mais il y a d'autres qui ne veulent rien savoir de ça, mais ils sont prêts de s'engager si c'est quelque chose un peu plus un peu plus difficile, disons. Le prochain, s'il te plaît. Les gens, OK, ça c'est un genre de diagramme des différents genres de paix. À gauche, vous avez le niveau de consentement à partir de très bas jusqu'à très élevé. Puis en bas ici, c'est le degré de force requise ainsi que le niveau de risque. Et vous voyez en haut, c'est le peacekeeping traditionnel. Et à droite, c'est en bas, c'est la guerre, puis juste avant ça, c'est l'imposition de la paix. Bon, je vous apprends rien, j'en suis certain. Alors, je continue. Je veux parler maintenant des résultats de ces opérations de maintien de paix depuis l'après-guerre froide. Là, c'est les conflits dans l'immédiat après les années 1990. On a eu des missions comme en Angola, où il y avait 300 000 tués. Les Nations Unies étaient là pour surveiller une élection. Les perdants de l'élection n'étaient pas contents avec les résultats. Et le résultat, c'était une guerre civile avec 300 000 tués. Ensuite, en Somalie, il y avait des centaines de milliers qui sont morts de famine. Il y avait une intervention des États-Unis. Et vous êtes tous familiers avec Black Hawk Down. Toutes les petits gars regardaient le vidéo, puis le cinéma, puis ça a fait scandale lorsqu'on a traîné les corps des Américains à travers des rues. Les Américains ont abandonné la Somalie ainsi que les opérations de maintien de paix. Il y a beaucoup qui les ont suivis à ce moment-là. Et malheureusement, le Rwanda a suivi tout de suite avec le Somalie en pleine vue, et il y a 800 000 qui se sont fait massacrer en Somalie. Il y a un Canadien, Roméo Dallaire, que quelques-uns ici le connaissent, qui a souffert beaucoup de ça. Il voulait qu'on fasse quelque chose, mais il était à peu près le seul au monde qui s'y intéressait. À Srebrenica, en Bosnie, il y avait une autre, ce qu'on appelle un génocide. Tous les mâles islamiques dans la ville, qui est un territoire protégé par les Nations Unies, étaient massacrés par les Serbes. Alors, 8000 massacrés. Pendant qu'un bataillon de Néerlandais les regardait, mais n'avait pas le droit de rien faire et n'avait pas les moyens, même si on les avait donné l'ordre de faire de quoi. Bon. Le niveau, le nouveau millénaire, dans les années 2000, tout le monde souffrait de tous ces désastres-là dans les années 90, mais on pensait que, bon, mais on va s'essayer encore, puis il y avait une autre poussée d'opération des Nations Unies. Sierra Leone, il y avait 4 gars des Nations Unies tués, mais 500 pris en otage. Ça, tout un bataillon, je pense, de Zambie, était pris en otage. C'est pas croyable, ça. Un bataillon qui doit tomber et s'en va avec leur capteur. Ensuite, au Congo, il y avait, tout de suite après le Rwanda, les Hutus sont partis au Congo, puis les Tutsis les ont suivis pas longtemps après. Ils ont déposé Mobutu, puis depuis ce temps-là, c'est la guerre au Congo. 5 millions de tués, pas grand intérêt ici dans le monde occidental, mais 5 millions de tués, c'est presque le même montant que le Holocauste. Puis dans un peu plus de temps, mais une quinzaine d'années, mais c'est terrible pour certains gens. Ensuite, il y avait Darfour, le Soudan du Sud, Abyei. Alors, 80 à 300 000 morts, puis plus de 200 000 réfugiés. Alors, ça, c'est le nouveau millénaire. Ensuite, il y avait des opérations non onusiennes. Il y avait Desert Storm, approuvé par l'ONU dans l'année 1991, je crois. C'était Bush le père qui a géré ça, avec Colin Powell, qui était chef de défense américaine. Puis ils ont fait ça by the book. C'était tout bien fait, avec toutes les approbations des Nations Unies. C'était limité dès que les Irakiens étaient poussés en dehors de Kuwait. Ils ont arrêté leurs opérations, puis je dirais que c'était un succès. Mais toutes les autres opérations, par la suite, c'est un désastre. 2001, c'est l'Afghanistan. Basé sur le droit d'autodéfense, ce n'était pas une approbation des Nations Unies. La mission des Nations Unies était l'ISAF qui avait la responsabilité pour gérer les seigneurs de la guerre, pour les empêcher de se battre entre eux en dévalisant Kaboul. Éventuellement, ISAF a pris la responsabilité pour se battre contre les talibans et c'est devenu une opération des Nations Unies. En Irak, en 2003, il y avait, premièrement, Bush a essayé d'avoir une approbation des Nations Unies en raison des armes nucléaires. Il n'a pas eu, puis il a envahi quand même. Et par la suite, on a découvert qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires, mais là, on a décidé que la raison pour l'évasion était parce que c'est Saddam Hussein qui était derrière l'attaque sur le World Trade Center à New York. Ça, c'est également ridicule, mais... Je décris simplement la situation à ce temps-là. Ensuite, il y avait le printemps arabe, 2001. Il y avait Libye, une mission de protection civile qui était utilisée par certains des pays de l'Occident pour fournir une aviation d'attaque aérienne aux rebelles islamiques venant de Benghazi. Alors, Kadhafi était capturé puis exécuté. Et depuis ce temps-là, l'idée de responsibility to protect a perdu énormément de crédibilité parce que cette opération-là était abusée. Ensuite, il y avait le printemps arabe en Syrie, 300 ou près de 300 morts. Des millions de réfugiés, pas seulement en Syrie, mais dans tous les pays autour, et en Europe, même au Canada. Alors, voilà les massacres, les génocides, les échecs de missions de paix. C'est évident, je crois, que l'ONU ne répond pas à sa raison d'être principale, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je ne dis pas que les gens en place étaient responsables de tous ces désastres-là, mais le fait reste qu'on a eu ces centaines de milliers de morts, un pays après un autre, pendant toute cette période-là, puis l'ONU n'a pas pu intervenir de façon adéquate. Alors, il y en a qui disent la solution, c'est le Conseil de sécurité. Il faut réformer ça. La première étape de mon étude, c'est de déterminer si le Conseil de sécurité est le premier coupable. Examinons les pour. On dit qu'il ne reflète pas la contribution financière à l'ONU. Il poursuit ses intérêts nationaux dans l'utilisation du veto. Une réforme diminuerait le pouvoir exagéré des membres permanents, surtout les États-Unis. C'est anachronique datant de 1945. Et surtout, Kofi Annan a fait un effort incroyable disant que devra devenir démocratique, transparente, équitable, représentatif, afin de devenir crédible. Cependant, l'autre côté du médaille, c'est là, les grandes puissances qu'on dit, c'est un anachronisme, c'est encore le P3, c'est encore les États-Unis, la Russie et la Chine qui sont les plus puissants au monde. Alors, cet aspect-là, c'est légitime. Et il y a beaucoup de gens qui disent que la place pour la démocratie, ce n'est pas dans le Conseil de sécurité. C'est pour ça qu'on a créé l'Assemblée générale des Nations unies. C'est là où tout le monde, chaque État, a une vote. Oui. Bon. Regardons la partie 2 de mon rapport, les missions de paix. Ça, c'est la deuxième étape de mon étude. J'écarte l'idée de réformer le Conseil de sécurité, puis j'ai fait une étude des quels sont les problèmes des Nations Unies. J'ai fait ça de façon systématique. J'ai analysé tous les rapports à travers des années faits par les commandants de mission devant le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Et si on peut avancer un peu.
Oui.
Encore. Oui, OK. Ça, c'est un exemple du fiche que j'ai fait pour chaque événement sur lequel il y a un rapport à la nation, des Nations Unies. J'ai examiné les enjeux qu'on a discutés et je les ai listés. Le prochain, s'il vous plaît. Et ça, c'est la liste de causes de problèmes des Nations Unies. Vous pouvez voir que le premier problème qu'ils ont, c'est l'utilisation de la force létale. Ensuite, le deuxième, c'est le refus de protéger les civils par certaines nations qui ont des troupes dans les Nations Unies. Et toutes les autres sont là. Est-ce qu'on peut avancer? Les problèmes principaux, je les ai listés. Les ressources, c'est premièrement un lack of adequate performance standards and contingents and insistence by the UN on meeting them. Puis ensuite, les capacités militaires sont inadéquates pour des opérations complexes de nos jours. Puis il y a d'autres problèmes là. Le prochain. Puis ensuite, leadership and management. Les Nations Unies ne sont pas capables de gérer puis d'intégrer les forces qui ne sont pas onusiennes. Bruno en a parlé justement des Français et le problème de relation avec les forces des Nations Unies. Et les mandats des Nations Unies sont inadéquats et pas réalistes. Finalement, peux-tu reculer? Oui.
Oui.
L'action, c'est les pires problèmes sont la force létale, il y a plusieurs pays qui ne croient pas, la failure, unwillingness, inability to protect civilians, les caveats, il y a des pays qui donnent à leurs forces l'ordre de refuser des ordres des Nations Unies d'intervenir dans certaines situations. Et bon, c'est ça. Alors, j'arrête ici parce que je manque de temps. Et je voulais vous donner un aperçu de mon projet de recherche où, si on me demandait dans un bar, c'est quoi le problème avec les Nations Unies, je pourrais vous dire sans aucune référence. Mais j'ai voulu justifier ça en prenant tous les rapports faits par les gens sur le terrain, en faisant une étude un peu pseudo-scientifique et d'utiliser ça pour dire voilà le problème et c'est ça mon rapport. Et une fois qu'on a le problème, n'importe quel idiot peut dire c'est quoi la solution. Je vous remercie beaucoup.